I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants? Des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler. Des livres avec des personnages racisés. Des livres loin des stéréotypes. Des livres non genrés. Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs, afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du Bruit de l'Odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Priska ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres, pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires de notre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne, lesenfantsdubruitdeodeur.com.
Quand je serai grande, je serai astronaute.
Vous allez retrouver la suite et fin de notre entretien avec Fatima Wassak. Dans cet épisode, Fatima note l'importance de laisser des traces. Car les révolutions des générations précédentes ont souvent été passées sous silence. Elles ont pourtant été nombreuses. Elle insiste sur la nécessité de s'organiser collectivement et politiquement en tant que parents, afin de protéger, faire entendre et faire respecter le droit de nos enfants. Je tiens à signaler que cet épisode peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Il n'est pas à écouter avec de jeunes enfants. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Le fait d'effacer tous les combats qu'il y a eu avant, c'est aussi une façon de nier le racisme qui existait, qui était là depuis bien longtemps, qui a fait des victimes et des dégâts, et qu'il y avait déjà des gens qui se sont organisés contre.
Oui, absolument.
Par rapport aux organisations, tu peux me dire par exemple les Folles de la Place Vendôme,
oui, bah, qui ont largement donc inspiré le Front de Mer. On en parlera après, mais effectivement, il y a cette lutte de femmes, de mères. Alors quand tu disais effectivement c'est une manière de nier le racisme, cette invisibilisation en fait des luttes de nos parents et grands-parents, t'as parfaitement raison. On préfère toujours un immigré, une immigrée sans mémoire, sans histoire, qui vient de nulle part en fait. Donc il n'est pas chez lui ici. Mais il n'a pas il n'a pas d'origine, il n'a pas d'ancêtre, il n'a pas d'héritage, il n'a pas de culture, il n'a pas de il n'a rien. Voilà, c'est quelqu'un qui est déterritorialisé ici et là-bas. Donc c'est vraiment une manière d'isoler aussi Donc ce qui explique l'invisibilisation quasi totale en fait de la présence migratoire en France. Je sais pas d'où on vient. Voilà, c'est pas expliqué forcément, etc. Les raisons pour lesquelles on est là, c'est pas forcément expliqué non plus. Et puis précisément des luttes. C'est-à-dire que vraiment il y a une invisibilisation des luttes, par exemple pour les Folles de la Place Vendôme, effectivement. Quand tu regardes ce qu'est cette lutte donc menée par des mères, mais tu te dis mais c'est incroyable en fait. Il y a un documentaire dont je parle dans le livre. Donc c'est les Folles de la Place Vendôme, on peut le trouver. Il faut garder des images, il faut garder des traces. Enfin, c'est pour dire à quel point c'est important aujourd'hui, bah, avec le travail que tu fais et ce travail qui est de plus en plus, qui se généralise de la parole, les images. Voilà, nos luttes. Et laisser une trace pour nos enfants, pour leur dire, voilà, on n'a pas rien fait, en fait. Et c'est vrai que quand tu vois ces images de femmes qui ont un discours déjà internationaliste, déjà. Elles font référence aux mères dans le monde entier qui se battent pour leurs enfants. Elles se nomment Folles de la Place Vendôme en référence aux Folles de la Place de Mai, donc en Argentine. Alors que c'est pas le même contexte, c'est pas pour les mêmes raisons. En Argentine, ce sont des femmes, des mères dont les enfants plutôt adultes ont été enlevés. C'est pas exactement le même contexte, mais malgré la différence de contexte, ces femmes-là, ces mères-là, au début des années 80, donc on est en 84 en France, elles disent nous sommes mères, nous pleurons nos enfants. Ces mères argentines sont des mères qui pleurent leurs enfants, c'est la même chose. On a le même vécu, on doit pouvoir se retrouver sur le même front. Et elles font des appels aux maires du monde entier. Donc, le monde entier, mais y compris en France. C'est-à-dire qu'on a comme ça sur scène, et vraiment, il faut voir ce petit film pour s'en rendre compte. Elles sont différentes elles-mêmes. Hein. C'est, il y a alors des femmes arabes, des femmes noires, des femmes blanches. Et elles ont le même propos pour dire, voilà, on est ensemble, en fait. Il y a quelque chose de commun, en fait, qui nous rassemble. Il y a la question raciale qui est là. Parce qu'effectivement, alors, ce qui les rassemble, malheureusement, c'est le deuil. C'est la mort de leurs enfants. On a des adolescents de 16-17 ans qui sont morts et qui ont été les victimes en fait de crimes racistes et ou sécuritaires. Enfin, à l'époque, il y a cette volonté de bien distinguer les deux, parce que, alors à l'époque, il n'y avait pas que des crimes policiers. Aujourd'hui, on parle beaucoup des crimes policiers, des violences policières. À l'époque, dans les années 70-80, il y avait beaucoup de jeunes tués. Beaucoup de jeunes descendants de l'immigration postcoloniale tués parce qu'un voisin avait considéré qu'il y avait trop de bruit en bas d'immeuble et avait sorti son fusil. Il y avait cette peur chez nos parents. Quand on faisait beaucoup de bruit dehors, il y avait cette peur du fusil, parce que les fusils étaient à l'époque en libre-service. Ouais, on pouvait les acheter dans les supermarchés, c'était incroyable. Et il y avait par exemple des voisins qui avaient des chiens. Et qu'il lâchait sur nous. Il y a aussi, je pense, aussi l'idée que un enfant, c'est pas un enfant. C'est-à-dire qu'on tirait dans le tas, en fait.
Il y a des enfantisations.
Voilà. En fait, moi, je travaille beaucoup sur cette notion-là dans le livre. C'est-à-dire, là, nous, on voit un enfant. Nos enfants, bah, nous, on voit, c'est des enfants, leurs grands yeux, leurs petites nattes, leurs petits gilets, le feutre sur les doigts, voilà, leur sourire. Nous, on voit nos enfants. Là où nous aurions vu un adolescent avec ses copains autour d'une mobylette, en train de s'amuser, en train de... Eux ont vu une menace. Et donc, pour un oui ou pour un non, parce qu'il faut voir à l'époque, c'était vraiment pour un bruit, un soupçon de vol de mobylette.
De la France, hein,
on est bien en France.
Exactement,
ah, oui.
C'est important de le dire que dans les années 80, en France, des enfants se faisaient tuer par des voisins en 1980, voilà. Dans les années 80 en France.
Absolument. Par dizaines. Alors non seulement il y avait ces crimes qui étaient nombreux. Je raconte notamment l'histoire d'une petite... Alors, elle avait passé 16-17 ans et c'était une fille. Il n'y avait pas que les garçons. Hein.
Une petite...
Voilà, absolument, qui avait 8 ans et qui vivait dans la cité des Groux avec ses parents, donc à Fresnes. Et à l'époque, voilà, de manière très courante, en fait, les gendarmes débarquent pour chercher un petit délinquant, parce que déjà à l'époque, la délinquance était utilisée pour quadriller le territoire, pour frapper, pour tuer aussi. On a ça encore aujourd'hui, hein. Je veux dire, voilà, les violences policières aujourd'hui, elles ont une histoire et qui remonte encore plus loin d'ailleurs que les années 70, mais qui s'ancre bien dans les années 70, lorsque ces gendarmes débarquent chez Malika Yazid pour chercher son frère, qui n'était pas beaucoup plus vieux, hein, il avait 14 ans, et ne le trouvant pas, bah, tu vois, ils ont décidé, voilà, et pour eux c'était naturel en fait, de soumettre cette petite de 8 ans à une séance de torture. Mais comme ils le faisaient en Algérie en réalité.
J'ai trouvé ça horrible quand tu dis dans ton livre en fait que cette petite fille a été enfermée dans une chambre avec des gendarmes, une petite fille de 8 ans.
Absolument.
Ils ont enfermé dans une chambre avec eux pour un interrogatoire.
Voilà, absolument. Une séance de torture,
voilà,
ouais. Pour avoir.
Aujourd'hui, n'importe quel enfant blanc va être enfermé avec des adultes.
Absolument. Oui, parce que l'enfant blanc, lui, c'est un enfant.
Voilà.
Malika Yazid, ce n'est pas une enfant, c'est une arabe. Parce qu'en fait, ce qui compte à ce moment-là pour les gendarmes, c'est pas l'enfant. L'enfant n'est pas considéré comme un enfant. Eux, ce qu'ils voient, c'est soit une menace, c'est-à-dire que le petit de 14 ans, s'il l'avait attrapé, c'est une menace, c'est la classe dangereuse, en fait. Cette petite-là, c'est simplement une source potentielle d'information. Où se cache ton frère ?
Pas un être humain.
Voilà. C'est où se cache... On veut avoir cette information. Mais encore une fois, hein, c'est très, très lié à ce que ces mêmes gendarmes ont pu faire en Algérie. Enfin, y a vraiment une continuité là-dedans. Et cette petite, effectivement, a subi cette séance de torture. Elle est sortie de la pièce, elle titubait. Bon, elle a pris des coups sur la tête. Elle s'est fait pipi dessus, par exemple. Enfin, vraiment, c'est vraiment horrible, quoi. Et oui, elle est morte les heures, les jours suivants. Elle est tombée dans le coma. Et elle est morte. Mais il y en a d'autres, en fait, où en fait, il y a eu ce processus-là. Et alors, non seulement il y a eu ces crimes, mais ce qu'il faut surtout dire derrière, et c'est important aujourd'hui, c'est qu'il y a une impunité judiciaire derrière. C'est-à-dire qu'en fait, la justice aurait pu condamner ces crimes. Et en réalité, si la justice les avait condamnés, ils auraient disparu. C'est-à-dire que, évidemment, que le voisin ne sort pas avec son fusil pour tirer s'il pense derrière qu'il va être condamné à 20 ans de prison, à la réclusion. S'il tire, c'est parce qu'il se dit qu'il n'y aura pas de conséquences. Exactement. Voilà. Et c'est ça qui est encore plus grave, je trouve. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu justice. Et en fait, les folles donc de la place Vendôme, elles réclamaient la justice. Leurs enfants étaient morts, mais elles réclamaient la justice. Elles sont parties dans les tribunaux pour demander la justice. Et ces mères ont été chassées des tribunaux. Elles ont été frappées. Elles ont été criminalisées. C'est-à-dire que c'était de leur faute. Elles avaient mal éduqué leurs enfants. C'est pour ça que leurs enfants étaient morts. Leurs enfants n'avaient pas circulé dans la rue, n'avaient pas été là autour de la mobilette. Et donc, elles ont refusé de pleurer dans les chambres. De rester comme ça isolées, et elles se sont regroupées. Alors non seulement elles ont fait des appels au monde entier, mais c'était surtout voilà elles entre elles en fait dire voilà nous on est soudées, nous on veut se battre pour nos enfants. Alors ce qu'elles disaient c'est voilà le mien aujourd'hui, le vôtre demain. Moi si je me bats aujourd'hui mon enfant il est mort. Mais si je me bats aujourd'hui c'est pour que vous n'ayez pas vous aussi à pleurer pour vos enfants. Et nous sommes toutes mères et voilà. Et cette lutte là elle a existé de 84 à 86. Si elle s'est arrêtée clairement c'est parce que ces mères étaient épuisées psychiquement. Quand on lutte contre la police, contre la gendarmerie, contre la justice française, contre les tribunaux, contre l'État français en fait, faut savoir, c'est épuisant. Enfin, moi je rends hommage aux familles de victimes de violences policières, de crimes policiers encore aujourd'hui. Quand on pense par exemple à Assa Traoré qui au bout de 4 ans est toujours là, à un moment donné avait 5 frères en prison, donc son frère mort évidemment, elle, il y a 4 plaintes contre elle. Voilà, mais elle lâche pas. Elle continue, elle est là. Voilà, faut se mettre aussi, faut avoir aussi un peu d'empathie avec les familles de victimes pour comprendre à quel point c'est douloureux, c'est épuisant. Et puis ce que racontent les folles de la place Vendôme, c'est en fait on a d'autres enfants. C'est pas comme si on avait à que d'avoir justice pour l'enfant mort. C'est faut s'occuper des autres enfants aussi. Donc lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est licencié, lorsqu'on est stigmatisé dans le quartier, etc. Comment on fait pour nos autres enfants? Et c'est ce qui explique qu'elles se sont arrêtées en 86, clairement. Elles sont en dépression, elles n'ont plus de travail, il faut que... Et donc, c'est pour ça qu'elles se sont arrêtées. Reste cette lutte glorieuse qui a duré 2 ans. Et les mères, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ce sont des mères qui se battaient en tant que mères. Lorsque les féministes en France considèrent que la maternité, c'est aliénant, finalement, on perd presque de sa puissance politique, en fait, lorsqu'on devient mère. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté, dont on n'a pas à se vanter, etc. C'est limite la maman, la mère au foyer, quoi. La mère qui, du coup, voilà, est totalement dépolitisée. Voilà. Moi, je pense que c'est important pour nous de dire aussi, voilà, en tout cas, chez nous, c'est pas comme ça. Donc, chez nous, c'est-à-dire dans l'immigration, je n'essentialise pas du tout par rapport à telle ou telle culture. C'est vraiment l'immigration qui a conduit à ça. C'est-à-dire, voilà, le fait que nos mères nous aient souvent portés sur leur dos pour venir, et que c'est parce que elles voulaient un meilleur avenir pour nous qu'elles ont migré, ça a joué. Dans Bien le fait sûr. Que, voilà, il faut se battre politiquement, il faut se battre pour ses enfants, il faut même admettre. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment à creuser là-dessus, presque une valorisation du sacrifice qu'on ne retrouve pas du tout dans les luttes, notamment féministes en France, en tout cas les luttes, le féminisme majoritaire. C'est-à-dire que là, tout à coup, il y a des mères qui assument de dire « bah oui, c'est pas pour moi que je me bats, c'est pour mes enfants ». Ce qui pourrait passer comme quelque chose de honteux pour des féministes majoritaires, c'est-à-dire mais non, il faut pas que tu te battes pour tes enfants, t'as pas de sacrifier pour tes enfants, t'as pas de sacrifier pour ta famille, etc. Il faut que tu t'occupes de toi, donc et ne pas être broyé par la famille aliénante, etc. Enfin tout ce discours, voilà. Non, nous on assume. Voilà. En tout cas, moi j'assume.
Il y a aussi une raison pour ça aussi, parce que en réalité, c'est que nous on l'a déjà vécu toutes ces choses. C'est ce que je disais, c'est que on sait ce que c'est et que pour un avenir possible, pour qui est impossible, il faut un combat des mères pour se dire après nous, quand on sera plus là, qu'est-ce qui va rester.
Exactement. Oui, oui. Et nos enfants, ils subissent une violence sociale telle qu'ils ont besoin de leur mère. Enfin, moi, je sais pas ce que c'est d'être une mère de classe dominante, blanche, qui est ici considérée comme étant dans son pays et qui éduque son enfant avec toutes les institutions. C'est-à-dire que tout l'aide. L'école l'aide, le cinéma l'aide, les médias, les livres jeunesse, tout va dans son sens, en fait, dans l'éducation, etc. Donc, elle, peut-être qu'elle peut se dire, oui, mais non, je veux pas, pour moi, c'est aliénant, je ne me réduis pas à mon rôle de mère, etc. Peut-être, je n'ai pas cette expérience-là. Moi, je suis une mère arabe, musulmane, considérée comme musulmane. Je vis dans un quartier populaire, en Seine-Saint-Denis. Moi, je sais que, voilà, les institutions ne vont pas dans mon sens. L'école ne m'aide pas, le cinéma, les livres jeunesse, tout ça ne va pas dans mon sens. Je suis même parfois obligée de me battre contre tout ça. Je vais à contre-courant. Mon enfant a besoin de moi. Oui. Donc, voilà, mon enfant, il a plus besoin de moi, certainement, que des enfants de CSP+, etc. Donc, personne ne viendra toucher un cheveu de mon gosse, quoi. La richesse de l'immigration, pour moi, la richesse de l'exil, en fait, c'est que, voilà, nous, nos enfants, on les a portés sur le dos. C'est pas pour les abandonner comme ça à la violence sociale.
Et justement, le fait que tu dis ça, parce que l'école reproche souvent justement qu'on soit démissionnaire, qu'on abandonne nos enfants, dans ton livre tu le dis très bien, d'un côté on nous reproche, enfin on reproche à nos parents et à nous-mêmes d'être démissionnaires, mais de l'autre côté on nous reproche d'être trop présent, envahissant et ne laissant pas la place en fait à nos enfants.
Bah c'est les injonctions paradoxales qui ont comme fonction clairement de nous détruire psychiquement, vraiment. C'est-à-dire que tu es là pour tes enfants, tu leur transmets tes héritages, ce que t'es en fait. Après, moi, je valorise pas un héritage plus qu'un autre. Moi, je dis, voilà, c'est ben, nos héritages, voilà. Ne pas trembler, ne pas avoir de complexe d'infériorité par rapport à ces héritages. Donc, tu transmets tout ça, on dit que tu es envahissante, tu es obscurantiste, tu imposes ta culture, ta religion. Bon, évidemment, quand on parle de religion problématique, c'est l'islam. Donc, tu imposes tout ça à tes enfants, tu en fais trop. Et dans le même temps, mais ça peut être dans la même phrase, on considère que tu es un parent laxiste, démissionnaire, tu ne tiens pas tes enfants. Lorsque Ziad et Bouna sont morts en 2005, on a reproché aux parents de Ziad et aux parents de Bouna de ne pas avoir tenu leurs enfants. Si leurs enfants sont morts, c'est parce qu'ils les ont laissés dehors et ils les ont mal éduqués, c'est pour ça qu'ils ont fui la police, etc. C'était les parents qui étaient responsables parce que laxistes. Et donc, et ces injonctions paradoxales, tu vois, quand tu es isolé, et t'es face à ça, mais comment ne pas péter un plomb, en fait. Donc moi, je pense qu'il y a cette fonction-là. Et puis, tu sais, il y a quelque chose de très simple hein, sur le fait de ne pas être considéré dans notre pleine et entière dignité de parents et de mères. Il y a un truc très simple. C'est les représentations qu'on a des familles noires, arabes, roms notamment, où on est persuadé qu'il n'y a pas d'amour dans ces familles. Il n'y a pas d'amour. Nous, il n'y a pas d'amour dans nos familles. La relation que l'on a avec nos enfants, c'est pas une relation d'amour. On utilise nos enfants. On utilise nos enfants pour avoir des allocations familiales. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en fait plein. On fait plein d'enfants, pas parce qu'on aime les enfants. Si on fait plein d'enfants, c'est pour les allocations familiales.
Ils vont nous servir à quelque chose.
Voilà. Et moi-même, alors que j'ai que deux enfants, je veux dire, j'ai pas, voilà, je suis pas la démographie africaine envahissante en France. J'en ai fait que deux. Et ben, même ces deux enfants-là, moi, c'est pas par amour, en fait, que je me lève le matin et que je me bats, que j'écris le front de mer, etc. Non. C'est parce que je veux les instrumentaliser à des fins obscures. Donc voilà, j'ai un projet masqué. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsque j'ai milité, demandé au départ, c'était même pas milité, demandé une alternative végétarienne à la cantine. J'utilisais ma fille pour imposer la charia, pour imposer l'islam, le halal. Ça commençait avec le halal, mais en fait, derrière, voilà. Et mais tu vois, mais il y avait ça derrière. Il y avait cette représentation de la mère qui ne fait pas ça vraiment pour son enfant. Mais parce qu'il y a cette représentation des parents...
Machiavéliques.
Alors, machiavélique, mais au départ, je crois que ça vient de ça, du fait que nous, on est incapables d'aimer nos enfants. Voilà. L'amour, en fait, c'est quelque chose de trop élaboré, trop sophistiqué pour nous. Voilà. Non, nous, c'est un truc très utilitaire, en fait. Nous, on fait des enfants, je dis, pour les allocations familiales. On fait des enfants pour se reproduire. Parce que, voilà, voilà, comme tout animal, en fait. On est des animaux. Bah, les animaux, ils cherchent à se reproduire. Bah, c'est pour ça que les Africains, ils font des enfants. Et vraiment, ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour comprendre parfois pourquoi on est autant déshumanisé, en fait. Pourquoi vous ne voulez pas considérer que, en fait, si je fais ça, si nous faisons ça, c'est pour nos enfants, parce qu'on veut que nos enfants s'en sortent, parce qu'on aime nos enfants. Non, tu vois, même cet amour, il nous est dénié, quoi. Et ça, je pense que c'est important, vraiment, pour comprendre la mécanique, en fait.
Et d'ailleurs, pour ce côté végétarien, je reviens dessus, parce que c'était quand même un... ça m'a paru un sketch, en fait. Je me suis dit, mais c'est un gag, c'est pas possible. C'est que comment, toi, forcément, vu en tant que femme arabe, tu n'as pas le droit de t'interroger, de t'inquiéter et de vouloir que tes enfants puissent avoir des choses équilibrées dans leur assiette. Demander un plat végétarien, forcément, derrière tout ça, c'était la radicalisation, l'islam, le côté de, le fait de vouloir manger halal. Mmh. Et en fait, à partir de là, on t'a mis des choses qui ne correspondaient absolument pas à ce que tu demandais.
Oui, parce qu'alors, bon, c'est vrai qu'au départ, moi, c'était juste, un truc très précis. Ma fille n'avait pas un repas équilibré à la cantine. Mmh. Voilà. Et elle sortait de la cantine sans avoir de repas équilibré. Et puis, un problème aussi que je trouvais, moi, important, c'est le fait que l'institution ne lui disait pas ce que lui disaient ses parents. Mmh. Et qu'à 3 ans, elle se retrouvait, en fait, prise dans un conflit d'autorité. Mmh. Voilà, avec le parent qui lui dit « ne mange pas la viande qu'on te pose dans l'assiette » et l'institution qui lui disait « mais goûte. » C'est-à-dire qu'on a posé la viande partout, mais en plus, il y avait parfois des personnes, des professionnels qui disaient « mais goûte la viande, mais n'écoute pas tes parents, ils racontent n'importe quoi. » Ils faisaient goûter du porc, d'ailleurs. Ouais. Voilà, il faut goûter le porc, c'est n'importe quoi. Voilà. Et puis, tu choisiras. Mmh. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais l'injonction paradoxale entre les parents envahissants et les parents démissionnaires, là, nous étions envahissants. Mmh. Nous ne laissions pas le choix à nos enfants. Je veux dire, et d'ailleurs, oui, je dis aussi dans le livre, mais attends, t'as des... Eux, ils appellent leurs enfants Augustin, des prénoms d'empereurs romains, ils les obligent à faire du solfège et tout, dès le plus... Mais nous, on peut pas. Nous-mêmes, nos cultures, nos langues, notre religion, etc., nous, non, il faut laisser l'enfant.
Voilà. C'est forcément imposé.
C'est imposé.
C'est parce que personne d'autre n'impose, en fait...
Exactement. Alors qu'en plus, l'école, c'est le lieu... justement de la non-liberté, du non-choix en réalité. Mais nous, effectivement, nous, il faut qu'on laisse nos enfants, à la limite, ne pas leur donner de prénom même. Il ne faudrait pas leur donner de prénom. Les appeler X jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans et ils choisiront eux-mêmes leur prénom. Enfin bref, c'est complètement... Mais voilà, mais encore une fois, c'est toujours paradoxal en fait. C'est des injonctions paradoxales, mais vraiment qui tendent à ne te laisser aucune marge de manœuvre. Donc voilà, donc on m'a dit, non. Lorsque j'ai dit, ce serait bien, il y a une solution, c'est l'alternative végétarienne, on m'a dit non. Alors, au départ, c'était pas tout de suite, je crois, on m'a pas tout de suite qualifié de communautariste. Au départ, ce qu'on a mobilisé, c'est non, parce que les pauvres, les gens pauvres, n'ont pas de viande à la maison. Mm-hmm. Ce qui était complètement faux. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces arguments-là, je les ai démontés au fur et à mesure parce que, bon, comme il se trouve que j'aime bien travailler mes questions quand je demande un truc, en fait, j'avais tous les rapports scientifiques qui montraient au contraire que, aujourd'hui, c'est pas comme dans les années 80, aujourd'hui, plus on est de classe populaire, plus on mange de viande. Et en réalité, les classes populaires mangent beaucoup plus de viande que les classes moyennes supérieures, parce que la viande aujourd'hui, elle n'est pas chère. En tout cas, cette viande-là, cette viande industrielle, vraiment pas bonne. Quoi. Mmh. Et comme ça, toujours de nouveaux arguments, jusqu'on en arrive au dur, mais très très vite communautariste. Mmh. Voilà, c'est une manière d'imposer le halal. Donc voilà. Et je retrouvais le mot halal dans les comptes rendus, dans les etc. Malgré le fait que jamais je ne parlais de halal, moi-même je suis végétarienne. Voilà donc.
C'est ce que j'allais dire. Mais ce n'était pas possible être végétarienne
non,
en fait.
Non, c'était pas possible parce qu'on peut pas être. Tu vois, il y a des représentations, mais comme tout à l'heure, je disais sur ces parents-là ne peuvent pas aimer leurs enfants. Mm-hmm. C'est pas par amour. Il y a aussi, par exemple, alors il se trouve que dans le collectif qu'on a fini par créer parce que la FCPE, donc parce qu'il s'agit de la FCPE, organisation donc de parents qui est censée représenter tous les parents, mais qui là a mis des bâtons dans les roues sur cette question d'alternative végétarienne. Lorsqu'on en a été chassé, en tout cas moi j'en ai été chassée, donc de fait je me suis retrouvée avec d'autres parents qui avaient à peu près les mêmes enjeux que moi. Et effectivement dans ce groupe là il y avait par exemple, une femme qui portait un foulard. Il se trouve que cette femme qui portait un foulard était végane. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, pour des raisons aussi religieuses. Mmh. Elle était végane parce qu'elle considérait que la viande aujourd'hui, telle que vendue, même quand elle était estampillée halal, en réalité, n'était pas halal parce que l'animal avait été maltraité. Et que pour elle, à partir du moment où l'animal est maltraité, la viande n'est pas licite. Voilà. Halal, ça veut dire licite. Parce que la viande en islam est illicite s'il n'y a pas tout un nombre de conditions, dont le fait de ne pas maltraiter l'animal. Bref, donc cette femme qui porte un foulard, il trouve qu'elle est végane. Et vraiment, il n'y croyait pas. Pour eux, ce n'était pas possible, en fait. Une femme qui porte un foulard, son métier, c'est de porter un foulard. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin, je porte le foulard. Voilà, c'est ça son rôle, sa fonction, son occupation, son hobby, son sport, etc. C'est de porter un foulard. Son régime alimentaire, c'est le foulard. Ça peut pas être, elle peut pas être végane. Végane, on en a une représentation. Visiblement, c'est ce que j'ai découvert à l'époque. Voilà, végane, c'est pas des personnes qui portent le foulard. Donc voilà, on a dû se battre contre toutes ces représentations. Et effectivement, écrit dans le livre, ça paraît incroyable. Mais c'est vrai. C'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire que, on a été stigmatisé, ça a été super loin. C'est-à-dire qu'il y a eu des appels qui ont été passés à nos employeurs. Il y a des gens qui ont été licenciés dans les familles, des gens qui travaillaient notamment dans les collectivités territoriales. Il y a des appels qui ont été faits dans les écoles de nos enfants pour dire méfiez-vous, ce sont des communautaristes. Mais elles sont en train de.
Moi, je trouve ça tellement énorme. Oh, ouais.
Sur l'alternative végétarienne, hein. Oh, donc on est bien sur la. C'est pas Game of Thrones, c'est pas l'OTAN, c'est bien la cantine d'une maternelle. Enfin, des maternelles de cette ville de Bagnolet. Donc, mais c'est aussi pour dire, voilà, quand on nous reproche, nous parents, descendants de l'immigration postcoloniale, parents racisés, quand on nous reproche de ne pas assez faire pour nos enfants, de ne pas nous battre, de ne pas avoir de stratégie collective, de ne pas militer politiquement, etc. Moi, j'avais besoin aussi de dire dans le livre, en fait, que à quel point c'était dur, même sur la cantine, même sur cette histoire de viande à la cantine.
Parce qu'on n'a pas notre mot à dire aussi, hein.
Sur rien.
Voilà.
En fait, c'est ça.
C'est important quand même, voilà, parce que absolument. Tu parlais justement des associations de parents d'élèves et de se dire qu'en réalité, elles représentent absolument pas des personnes comme nous. Absolument. Et que justement, il y avait déjà aussi un jeu de pouvoir à l'intérieur de ça pour absolument. Qu'on y soit pas. À l'intérieur, qu'on soit absolument. À l'extérieur de tout ça.
Absolument.
Le fait que des parents aient pu perdre leur travail, en fait, aussi. Rien que par rapport à...
Oui, absolument.
Voilà, ça, c'est important de se dire qu'il y a un champ de manœuvre qui est comme...
Ouais, exactement.
Ça paraît être une petite bataille, on va dire.
Ouais.
Mais en fait, il y a un champ de manœuvre qui est énorme derrière.
Ouais, absolument. Bah, la lutte contre les inégalités, notamment raciales, elle se paye très, très cher. Ça peut être juste sur des petites bricoles, en fait. Le fait de remettre en question quelque chose dans le cours, de venir, de dire, voilà, moi, je trouve que dans le cours, vous avez dit à l'enseignant ou l'enseignante, il y a quelque chose qui m'a déplu, etc. Ça peut se payer très, très cher, en fait. Il peut y avoir, voilà, l'enfant peut très vite être marginalisé par l'éducation nationale qui ne supporte pas de voir arriver des parents minoritaires, remettre en question le système, même quand c'est sur des détails. Donc, oui, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et en même temps, dire quand même que, bah, par exemple, sur l'alternative végétarienne, et bon, on a gagné.
Tu venais de me dire que parfois, les enseignants eux-mêmes n'aiment pas toujours qu'on ait des revendications et qu'ils puissent le faire payer aux enfants. Tu le dis aussi dans ton livre.
Oui, oui. Alors, parfois, c'est simplement des remarques. Tu vois, un truc qui ne va pas. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire pour ce qui concerne mes enfants, mais aussi pour ce qui concerne d'autres parents que j'ai pu accompagner, que j'ai pu aider, de simplement faire état d'un problème, de quelque chose que vivait mal l'enfant, d'essayer au maximum d'associer l'enseignant ou l'enseignante en disant « Venez, on va travailler ensemble, en fait. Les parents, les enseignants, les enfants, en fait, on va essayer de régler le problème, quoi, sur un truc très positif, on essaie. » Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que même quand tu dis « Voilà, vous n'êtes pas responsable, mais il y a un problème, en fait. » Sans aller sur des choses très, très politiques comme l'inégalité structurelle, le fait que l'école reproduise les inégalités, etc. Sans aller sur quelque chose aussi massif, mais simplement sur des petites choses. Mais souvent, ça, c'est en lien avec les questions d'inégalité, de discrimination, d'humiliation, de violence, la plupart des enseignants ne supportent pas ça, en fait. Ils se sentent tout de suite attaqués. C'est-à-dire que tout de suite, perçoit le parent comme agressif. Alors, quand tu rajoutes à ça le fait que tu es une femme racisée, donc noire ou arabe, grosso modo, nous sommes considérés comme étant hystériques, en colère, pas calmes en tout cas. Voilà. En plus, alors pour ce qui me concernait, militante. Donc en plus, alors les parents militants, voilà, ils veulent faire la révolution dans l'école, etc. C'est des gauchistes et puis des femmes aussi. Donc le fait que tu sois une femme, donc avec tout ce côté aussi hystérique aussi que peuvent avoir dans les représentations qu'on peut avoir des femmes, alors à partir du moment où elles viennent simplement poser un problème. Bon, là, tu as affaire à des enseignants ou des enseignantes qui paniquent. Enfin, moi, j'ai déjà vu des enseignants et des enseignantes paniquer et être convoquée, moi, parce que j'avais été considérée comme étant violente, agressive, alors que j'avais parlé vraiment très, très calmement. Et donc, c'est compliqué. Alors, là où il ne faut pas se résigner à ce rapport presque interpersonnel, en fait, entre le parent et l'enseignant, l'enseignante, c'est qu'il faut s'extraire de ça pour s'organiser politiquement. C'est pour ça aussi que je dis, voilà, il faut créer un front de mère, faut créer un front de parents en réalité. Mais sauf que c'est les mères qui s'occupent pour l'essentiel de leurs enfants, donc créons un front de mère. C'est pour dire, voilà, sortons de cette confrontation, en fait, qui est stérile, voire qui peut s'avérer violente, en fait, y compris pour l'enfant. L'enfant peut en pâtir. Sortons de ça et organisons-nous. C'est-à-dire que déjà, on n'est pas reçu de la même manière quand on arrive à quelques parents, plutôt que quand on arrive tout seul, toute seule. Et puis, voilà, on n'a pas la même confiance aussi. Quand j'amenais ma fille en maternelle, j'avais une boule au ventre. J'étais mal. Je circulais mal dans les couloirs. J'étais pas à l'aise, en fait. Il y avait... J'étais, voilà, sur une manière d'infantiliser le parent, une manière de lui dire, bon, il se trouve que je suis quand même souvent en retard, j'avoue. Il y a toujours une raison, mais je suis souvent en retard.
Tu crois sur un stéréotype.
Non, voilà, mais ça, confirme à fond ce stéréotype-là. Mais c'était quoi? C'était des retards de quelques secondes, quoi.
Wow. Mais
vraiment, la manière dont j'étais interpellée, alors c'est un vrai problème, le retard, c'est un problème, on peut en discuter. Entre adultes. Je veux dire, voilà, moi, j'accepte tout à fait de parler de ce problème-là, mais d'être considérée comme une adulte. Là, il y avait un ton de voix, mais comme si j'avais l'âge de ma fille, en fait. Et j'étais obligée de dire, non, mais je ne suis pas une élève, en fait. Moi, je suis un parent. Je suis, voilà, une mère de famille. Et ça, c'est compliqué. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont l'impression, lorsqu'ils amènent leurs enfants à l'école, qu'il ne s'agit pas de leurs enfants. Et qu'il ne s'agit pas de leurs enfants. Ils ont honte, en fait, de mal faire. Tu vois, sur le vêtement de l'enfant, sur ce que fait l'enfant à la maison, la consommation de d'écran, la télévision, le mal. Parce que, voilà, ils sentent ce reproche, en fait, insidieux de la part de l'institution, qui consiste à dire que le parent s'occupe mal de l'enfant. Que l'institution lui confie à 4h30. C'est le truc qui est inversé. C'est-à-dire que c'est l'institution qui l'éduque bien à longueur de journée. Et à 4h30, le parent, voilà, en tout cas, il y a certains parents qui ont l'impression que, voilà, c'est l'institution qui leur confie et qu'eux font mal, en fait. Et que, voilà, ils les nourrissent mal, ils passent trop de temps devant la télévision, etc., etc. Et je sais qu'il y a des parents, par exemple, des mères à Bagnolet au début, où, en fait, on devait se répéter qu'il s'agissait de nos enfants, en fait.
Ouais.
Eh, mais c'est nos enfants. Bon, après, le déclic va vite, hein. C'est-à-dire qu'une fois que t'as pris conscience de ça, c'est, là, du coup, bon, voilà.
Voilà.
Le dragon dont je parle dans le livre, en fait. C'est mes enfants avec une puissance, voilà, qui du coup, est exponentielle. Et c'est pour ça qu'il faut cette conscientisation, il faut y travailler. Je sais que tu y travailles beaucoup aussi. Mais cette conscientisation, elle peut vraiment, justement, permettre cette montée en puissance. Mais il faut voir aussi de là d'où on part. Là où on part, c'est quand même des parents, des mères en particulier, qui ont l'impression qu'elles ne sont pas totalement responsables de leurs enfants, qu'elles partagent la responsabilité de leurs enfants avec l'institution, avec l'État français, ce qui est faux. Voilà, il faut commencer par dire, non, on a la responsabilité pleine et entière de nos enfants. Nous ne faisons que confier nos enfants à l'institution. Et encore, en les pointant du doigt, en disant « Attention, si vous vous comportez mal avec nos enfants, s'ils ne sont pas bien traités de manière égalitaire, de manière bienveillante, etc. » Voilà, le contrat est rompu. Et je serai là pour veiller, nous serons là pour veiller à ce que vous respectiez la dignité de nos enfants. Donc, et c'est ce rapport-là, en fait, qu'il s'agit d'imposer. Rapport qui est...
totalement inversé. En fait,
voilà, totalement inversé. C'est-à-dire, la réalité, c'est que voilà, ce sont nos enfants. Ils ne nous appartiennent pas, évidemment. Je suis pas en train de dire voilà c'est nos enfants on en fait ce qu'on veut. Non, c'est vraiment pour insister sur la responsabilité pleine et entière et sur le rôle de l'institution. Le rôle de l'institution, c'est le rôle qu'on lui donne. Voilà, sur la base de garantie, sur la base d'un contrat. Et ça, il faut le dire, il faut le répéter aux parents, de se réapproprier notre rôle de parent et puis d'avoir un pied dans l'école. C'est le service public. Les écoles, c'est des établissements, c'est une institution qui est financée sur la base de notre argent, nos impôts. Ce sont nos écoles, en réalité. Il faut qu'on puisse avoir un œil sur le projet d'établissement, le projet pédagogique, ce qu'on donne à manger à nos enfants, comment on les conseille. Ça, voilà, on devrait avoir notre mot à dire en tant que parent, en tant que mère en particulier. On en est dépossédé. Ben, il s'agit de reconquérir ça.
Et quand tu parlais justement du projet pédagogique, je parle aussi, enfin, moi, ce que je trouve aussi important au sein de l'école, c'est d'avoir une représentation positive. Parce que on projet pédagogique, quand t'as tous les enseignants, par exemple, je sais pas, dans l'école de son enfant, comment ça se passe, mais pas d'enseignants racisés. Au niveau des livres, c'est la même chose. Pas de personnages, en fait, qui pourraient leur ressembler. Il n'y a absolument rien au sein de l'école qui pourrait représenter nos enfants et de façon positive.
Absolument. Alors moi, j'insiste moins sur la proportion d'enseignants enseignantes racisées pour une raison très très simple. C'est qu'en réalité, les enseignants et les enseignantes racisées au sein de l'éducation nationale, ce sont des personnes qui sont en situation de précarité la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils sont plus il et elle sont plus précaires que leurs collègues non racisés. De toute façon, à partir du moment où, sur un secteur d'activité donné, les conditions de travail se dégradent, tu peux être sûr que ce secteur d'activité va être sexualisé au sens où il y aura plus de femmes,
oui,
et va être racialisé au sens où il y aura plus de non-blancs, forcément. Dès que les conditions se dégradent, on recrute davantage de personnes qui vont accepter de ne pas être en CDI ou fonctionnaire. Donc, c'est tous les contrats précaires. Tu sais qu'il y a une augmentation.
Oui, mais après, là, c'est un autre problème, du coup, parce que ça n'empêche qu'on ne peut pas dire qu'il ne faut pas d'enseignants racisés.
C'est pas
au
ça
sein
que je...
des,
oui,
voilà,
absolument.
Mais
absolument.
Je comprends tout à fait ce que tu dis.
C'est parce que tu parlais de représentation positive et de...
Mais pas à n'importe quel prix.
Voilà,
c'est important aussi.
Pourquoi je te parle de ça? Parce que parfois, les questions sont très complexes localement, en fait. C'est que moi, je sais qu'il y a des collectifs de mères... qui se sont organisés notamment pour demander à ce qu'il y ait moins de contrats précaires, à ce qu'il y ait plus de professeurs agrégés, etc., en disant, mais déjà, chez nous, c'est la misère, c'est la galère, etc., on a moins de moyens, etc. Pourquoi les seuls enseignants, enseignantes qu'on récupère, entre guillemets, dans l'établissement, ce sont des personnes qui sont très peu formées, qui sont moins bien, moins diplômées, etc. Et souvent, c'est associé au fait que les enseignants et les enseignantes sont racisés. Tu vois, il y a quelque chose comme ça
oui,
de...
Bien sûr, hein.
Du coup, voilà. Du coup, sur cette question-là, alors, je dis pas qu'elle est complexe, elle est pas plus complexe que d'autres questions, hein, mais simplement, il y a aussi un travail au sein de l'éducation nationale, et donc peut-être des parents avec les enseignants pour demander à ce que il y ait une revalorisation du métier d'enseignant, tu vois, y compris pour les personnes racisées. Enfin, parce que là, pour le coup, non, ce n'est pas une...
C'est comme mettre les plus jeunes qui n'ont aucune formation, voilà, par exemple.
Exactement. Voilà. Et malheureusement, c'est associé, encore une fois, à l'origine ethno-raciale des individus. Mais t'as raison sur le fond, en fait. T'as raison sur l'idée que sont renvoyés à nos enfants...
La possession du savoir.
Des représentations.
Des personnes blanches qui vont les avoir.
Absolument.
Il y a eu des études de fait, par exemple, aux États-Unis sur
ça. Ah oui,
ça.
Absolument.
Le rôle modèle ne lui ressemble pas.
Oui, absolument.
Ça peut être un facteur au fait qu'il y réussit moins bien.
Absolument.
Qu'il se sous-estime.
Absolument. Ouais.
Mais le problème que tu soulèves, c'est un problème qui fait partie du problème de toute
absolument.
Façon.
Absolument. Absolument. Alors, sur le fait qu'il y a très peu de représentations de personnages non blancs dans les livres jeunesse, par exemple.
Oui.
On est à des 3-4%. Donc, ça, c'est évident. Absolument. Absolument. Et ça tend, effectivement, à réduire, en fait, le champ des possibles des enfants.
Exactement.
L'enfant ne peut pas se projeter comme scientifique, astronaute, parce qu'en fait, voilà, dès le plus jeune âge, dès sa naissance, en fait, il a été habitué à voir les gens comme lui, être éboueur, femme de ménage, etc. Donc, et il n'a pas pensé que c'était possible de faire autre chose que ça. Et tout y travaille, c'est-à-dire que tout au long du parcours scolaire, tout travaille à réduire ce champ des possibles. Là-dessus, on est d'accord.
Et puis, qu'est-ce que ça dit, en fait, de la société? Qu'est-ce que ça dit de la place de l'enfant aussi? Quand il se voit nulle part, quand il est inexistant, quand sa voix n'est pas entendue.
Absolument.
C'est quand même quelque chose d'assez violent et de se dire, en fait, toi, t'es pas là. Tu n'es
absolument
pas là.
Ouais, c'est soit tu n'existes pas, effectivement, tu es invisibilisé, tu n'es pas dans les livres, les programmes scolaires, les livres jeunesse, etc., tu n'es pas au cinéma, tu n'es pas à la télévision, ou alors tu en fais partie, mais tu es en dessous.
Exactement.
Voilà, et c'est les deux, effectivement, et les deux sont autant destructeurs.
Oui,
absolument. Pour avoir ce type de représentation tellement négative, tellement stigmatisante, etc., je préfère que nous ne soyons pas représenter.
Mais c'est pour ça que c'est important le own voice aussi, le fait de pouvoir exister, mais comme rien que parce que ce que tu fais là avec le front de mer, de dire organisons-nous nous-mêmes.
Voilà,
produisons des livres, organisons-nous pour être au sein de l'école, voilà, pour que nous puissions faire entendre nos voix.
Voilà, alors il y a bien la qualité après de la représentation, et dans quelle mesure ces représentations vont permettre de rouvrir le champ des possibles des enfants. C'est que nos enfants n'aient pas l'impression d'être dans cette sous-humanité, nos enfants
insouciants, ils ont droit ils ont droit de faire des bêtises, de crier, de sauter,
exactement,
et que c'est pas des petits sauvageons parce qu'ils sautent et qu'ils crient, et que ce sont des enfants.
Ce sont des enfants. Ouais. Et ça, même ça, quelque chose aussi simple que ça, on est obligé d'organiser des fronts de mer pour dire, voilà, nos enfants sont des enfants.
Merci. Et je voulais terminer par une citation de toi, dans ton livre, quand tu dis, en fait, car un pays où on détruit les enfants est un pays sans avenir. Je trouve qu'il y a un très beau message de fin. Donc, merci beaucoup, Fatima.
Merci à toi, merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
Un plaisir partagé.
Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles.
5,
ainsi
5,
que
5.
De partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook...
Et sur Instagram, on est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com.
À très bientôt, Ulrich.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.